Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G, proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural, collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature qui vous propose de nombreuses activités et formations en lien avec le végétal pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Cette nouvelle émission est dédiée à la délicate et parfumée liane de chèvrefeuille, une plante à installer sans hésitation dans vos jardins, qu'elle embaumera de ses parfums jusqu'en octobre. Nous accueillerons dans la séquence interview Jimmy, adhérent du Plantis, spécialisé dans la maintenance informatique et qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui avec nous dans le studio. Nous écouterons un conte de Élie Reclus avec les voix de Christelle, Claudie et Jimmy. Jimmy, tu n'es pas venu pour rien. Enfin, Laura nous parlera des propriétés du chèvrefeuille dans la chronique « Le bonheur est dans les simples ». À l'occasion de la fête des mariniers de Saumur, qui a eu lieu en septembre, je me suis trouvée nez à nez avec la tête d'un silure trônant sur le stand des pêcheurs. La vue de cette gigantesque tête, la mâchoire ouverte, cernée de dents acérées, a stimulé mon imagination. Plus je la contemplais, plus elle m'évoquait l'espèce humaine dans une sorte de miroir déformant à travers duquel je voyais au grand jour dans sa nudité crue sa voracité, son appétit insatiable. Un monstre prédateur et destructeur de vie, devenu si énorme que son milieu ne pouvait plus l'accueillir à terme sans mourir lui-même. Pas étonnant que nous soyons tant fascinés par ces monstres aquatiques, tapis et à l'affût dans nos cours d'eau. C'est ainsi que j'ai trouvé un nouveau nom pour illustrer notre addiction consumériste, le syndrome du silure. Bon, heureusement, un autre chemin est possible pour retrouver nos racines et nous reconnecter aux vivants en laissant la parole pleine de sagesse aux chèvrefeuilles pour poursuivre notre exploration des chants d'oiseaux du jardin. Celui du merle nous accompagnera de ses mélodies. Le chèvrefeuille appartient à la famille des caprifoliacées et, avant de se nommer Lonicera, choisi en hommage au botaniste et médecin allemand du XVIe siècle, Adam Lonitzer, grand vulgarisateur des techniques de distillation, nous l'appelions caprifolium, ce qui signifie littéralement « grimpe comme une chèvre ». De nombreux surnoms caprins lui sont restés, comme barbe de chèvre, bois la chèvre, miche chèvre ou encore broute biquet. Le chèvrefeuille des jardins, ou Lonicera caprifolium, aussi appelé camérisier, est agile et intrépide comme une chèvre. Curieux, il grimpe partout et recouvre de ses lianes et de son feuillage clôtures, arbustes et arbres. Il débute sa vie acrobatique, les racines bien ancrées dans le sol, développant au printemps un tapis de feuilles d'où émergent des tiges volubiles qui rampent et se dressent en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourvues de cellules tactiles, à leur extrémité, elles s'enroulent voluptueusement autour des supports rencontrés, développant un réseau dense de lianes entremêlées et superposées en quête de lumière. Ce tempérament casse-cou lui vaut d'ailleurs le surnom de saute-buisson. Une fois le sommet atteint, elles se laissent retomber et se balancent nonchalamment, offrant le parfum de leurs fleurs délicates aux promeneurs du crépuscule. Car le chèvrefeuille est une plante noctambule et révèle ses parfums une fois la nuit tombée. Les fleurs de couleur blanche et parfois beige rosé, groupées en verticilles, forment un tube qui s'ouvre en deux lèvres d'où s'échappe tel un insecte aux pattes effilées, le pistil et les étamines. Une forme qui a donné naissance au surnom « pattes d'araignée ». Une fois fécondées, elles donneront naissance à des baies rondes, rouges, orangées, légèrement toxiques. Vous l'aurez remarqué au fil de nos émissions, souvent les baies rouges ne sont pas très comestibles. Chèvrefeuille à midi s'endort, chèvrefeuille à minuit s'éveille. Chèvrefeuille aimé des abeilles, en messie d'or tu parfumes la nuit. Bien malin celui qui peut la faire à l'oseille. Le chèvrefeuille de Robert Desnos rend hommage aux vertus écologiques incomparables du chèvrefeuille et tout particulièrement du cousin du chèvrefeuille des jardins, le chèvrefeuille des bois. Ces lianes enchevêtrées facilitent le déplacement des insectes et des oiseaux dans les haies, ce qui lui vaut par ailleurs l'appellation d'échelle de rongeurs. Ils permettent aux animaux de se confectionner des nids douillets en hauteur, à l'abri des prédateurs. Ces feuilles blanches discrètes le jour reflètent la nuit la lumière de la lune et attirent ainsi les insectes nocturnes. Son parfum entêtant se libère à l'heure précise d'activité des papillons nocturnes, tels les sphinx, dont la trompe atteint facilement le nectar dissimulé dans les profondeurs des corolles. De cette façon, le chèvrefeuille a adapté sa floraison aux pollinisateurs indispensables à sa fécondation, ces derniers assurant le transport de pollen d'une fleur à l'autre. Certains bourdons trichent parfois et perforent la corolle pour en récolter le nectar sucré. Le chèvrefeuille porte ainsi le joli nom de fleur de miel ou de fleur à sucre. Le chèvrefeuille a aussi donné son nom à de nombreuses chansons ou morceaux musicaux, comme celle que chante Nana Mouskouri, « Chèvrefeuille, que tu es loin », que nous écoutons maintenant. Sur 101.5 FM dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% Nature de Radio G, en compagnie du chèvrefeuille. Si le chèvrefeuille des jardins est la plus connue des lianes pour les jardiniers, de nombreux autres cousins méritent d'être découverts. Le chèvrefeuille des bois que nous avons évoqué plus haut se nomme Lonicera periclimenum, ce qui signifie « baigner tout autour », car certaines feuilles se soudent à la base, formant de petits réservoirs d'eau fort utiles pour la faune. Comme celui des jardins, les lianes mesurent jusqu'à 6 mètres et vivent jusqu'à 40 ans. Leur diamètre n'augmente pas avec les années, à l'instar des clématites, et dépasse rarement le demi-centimètre. Ce chèvrefeuille est aussi amateur de sols acides et supporte l'ombre des lisières. Il a aussi la réputation de vouloir étrangler les troncs qu'il recouvre. Les lianes du chèvrefeuille du Japon, Lonicera japonica, aux baies bleutées et aux feuillages persistants, dépassent elles souvent les 10 mètres. Elles se sont depuis naturalisées en Europe. Beaucoup plus vigoureuses, il est conseillé de les tailler chaque hiver en dehors des périodes de floraison. Allez, il est temps de retrouver la séquence interview avec Jimmy, adhérent pro du Plantis, expert en maintenance informatique. Bonjour Jimmy.
Bonjour Claudie.
Alors bienvenue dans les studios de Radio G. Nous avons plaisir à t'accueillir pour notre première interview en direct.
Merci à vous pour l'invitation.
Alors Jimmy, tu es en fait notre référent en numérique au Plantis. Donc je veux bien que tu nous décrives ton activité, quel est ton métier, où tu l'exerces.
Ouais. Bah, mon métier, c'est venir en aide aux problèmes informatiques de tout un chacun, un peu comme un docteur. L'ordinateur qui fonctionne mal, qui est ralenti, ou quand on se pose des interrogations. Donc à ce moment-là, moi j'interviens pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Aussi conseiller et expliquer.
Bah écoute, je pense que sur ce territoire, parce que tu es installé, en fait, ton entreprise elle est située pas loin d'Écuyer.
Voilà, moi l'entreprise, j'ai pignon sur rue à Châteauneuf-sur-Sarthe, dans les Hauts-d'Anjou. Je fais du déplacement essentiellement sur site, donc trois quarts de mon activité chez les particuliers ou les professionnels, et j'interviens dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Châteauneuf et Sceaux-d'Anjou.
Et donc, j'ai envie de dire que ces talents sont très précieux en territoire rural, oui. Hein, parce qu'on a beaucoup une offre de maintenance plus importante en ville. Tu es aussi adhérent pro au Plantis, et donc tu peux nous dire rapidement ce que tu proposes aux habitants du territoire aussi dans le cadre des activités du Plantis.
Dans le cadre des activités du Plantis, alors le thème principal, c'est déjà comment utiliser un ordinateur. Alors ça peut paraître simple pour beaucoup, mais certains ne savent pas manier une souris, par exemple. Le clavier, il y a des fonctions avec des raccourcis qui peuvent être intéressants. Voilà, comment l'allumer, l'éteindre. Alors après, il y a d'autres thèmes. On peut aller plus en profondeur. C'est l'étude des systèmes d'exploitation. Des thèmes qui peuvent aller aussi sur du montage. Montage vidéo, montage photo. Il va y avoir aussi la partie bureautique. Comment utiliser, par exemple, LibreOffice ou Microsoft pour faire du traitement de texte, du tableur.
C'est vrai que c'est important de pouvoir aussi rendre les gens autonomes avec un outil qui est malgré tout très récent dans nos vies. Donc, Les Plantes Vagabondes est une émission sur la nature, et tu as beau être informaticien, je suis sûre que tu n'es pas insensible à la nature et au monde vivant. Et donc le fait déjà d'être dans un lieu qui est quand même un peu dédié à la nature, comment toi tu vis ce lien à la nature, soit dans le cadre du Plantis, soit dans le cadre de ta vie.
Moi, c'est arrivé par hasard, parce que je suis né à Angers, donc j'ai vécu une longue partie de ma vie à Angers. Je suis arrivé en campagne en 2005 à Feneux à l'époque, et j'ai déménagé ensuite 5 ans après à Sceaux-d'Anjou. Donc je me suis retrouvé vraiment dans comme on est dans le trou du cul du monde, hein, il y a que des vaches autour. Donc c'est la terre, c'est les arbres, et puis de fil en aiguille, j'ai pris goût en fait à la plantation. D'abord, savoir ce que c'était une bulbe, je ne savais pas avant. Une bulbe de tulipe et de narcisse. Maintenant, tous les ans, à chaque printemps, je plante. Enfin, à l'automne, je plante pour que les fleurs sortent au printemps, évidemment, les tulipes, les narcisses.
L'émission, enfin, la plante de l'émission aujourd'hui est le chèvrefeuille. En as-tu toi-même dans ton jardin? Est-ce que tu connais cette plante? Est-ce que, voilà.
Alors, effectivement, j'en ai planté il y a 2 ans parce que je voulais recouvrir une pergola. Là, elle a bien donné cette année. Et en fait, ça m'a rappelé également quand j'étais gamin ou qu'on prenait la tige du chèvrefeuille là pour justement manger le sucre qu'il y avait dedans. Et c'est là que j'ai redécouvert en plantant il y a 2 ans. Ah tiens, ça me rappelait quand on.
C'est un usage qu'on a peut-être oublié alors. Et donc
si
tu as retrouvé.
Si c'est bien ça en tout cas. Mmh. Mais moi, c'est dans les souvenirs d'enfance. Ouais, c'est cette plante là qui recouvre les grillages ou. Et ouais, on tirait juste sur le bout de la plante et puis on avait... Alors c'était juste une toute petite goutte hein, de sucre.
Ah, du concentré.
Ouais.
Écoute, Jimmy, bah, merci pour cette interview. Et puis, bah, tout à l'heure, pour le compte de la fin de l'émission. L'usage médicinal du chèvrefeuille est très ancien. La fleur est connue des Égyptiens, des Romains et des Arabes, notamment pour ses vertus curatives. En médecine chinoise, la tige et les feuilles du chèvrefeuille japonica, injustement appelé japonica d'ailleurs, sont associées aux méridiens du cœur et du poumon. Elles s'utilisent pour apaiser la fièvre. En infusion, elles purifient le corps et ouvrent les canaux énergétiques des méridiens. Dans la médecine populaire, les fleurs fraîches et les boutons floraux calment la toux, l'asthme, les bronchites et les insomnies. Les effets antibactériens, antiviraux et anti-inflammatoires du chèvrefeuille sont aujourd'hui identifiés. Pour en savoir plus, écoutons Laura dans la chronique « Le bonheur est dans les simples ».
Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de l'extraction des parfums des fleurs, notamment de ces fleurs muettes dont fait partie le chèvrefeuille. En parfumerie, pendant des siècles, les parfumeurs les plus expérimentés et les plus entêtés ont tenté de capturer les odeurs délicates des fleurs muettes pour extraire leurs parfums. Mais ils se sont cassés le nez, encore et encore. Ces fleurs sont le désespoir des parfumeurs. Mais quelles sont ces fleurs qui nous charment tant sans jamais révéler leurs âmes? Il existe plusieurs variétés de fleurs en parfumerie, parmi lesquelles celles des fleurs muettes. Cette catégorie se caractérise par le fait que l'on ne peut obtenir d'elles ni d'essence ni absolue. Un cauchemar presque pour les parfumeurs. L'extraction par solvant, la distillation à la vapeur d'eau, l'enfleurage, les absolus, peu importe le procédé d'extraction employé, la fleur ne parle pas. Elle reste muette. Parmi les fleurs muettes, on compte le lys, la violette, la jacinthe, le buddleia, le lilas, la pivoine, le frésia, le muguet, le chèvrefeuille, le gardénia et l'œillet. Et pourtant, leur odeur est forte, prononcée et envoûtante. Nous avons tous dans nos mémoires les effluves de ces fleurs qui émanent de leurs pétales. Les parfums que l'on trouve dans le marché de la pivoine au chèvrefeuille, au frésia ou encore à l'œillet ne contiennent absolument pas d'essence ou ad absolu de ces mêmes fleurs. Les parfumeurs ont recours aux molécules de synthèse, une alternative pour faire parler ces fleurs aphones. Parmi les molécules de synthèse les plus connues utilisées en parfumerie pour créer les fragrances des fleurs muettes, on retrouve l'acétate de benzyle, découvert en 1855. Il y a aussi l'édione, l'alcool phényléthylique ou encore l'hydroxytronellal. Il existe différentes techniques qui sont utilisées pour extraire les parfums en général, notamment la distillation qui permet d'obtenir l'huile essentielle. C'est le cas de la lavande, la rose, le cèdre, l'ylang-ylang et bien d'autres. Le jasmin, quant à lui, est la fleur de l'enfleurage. L'enfleurage est une technique d'extraction permettant d'obtenir les parfums du jasmin et quelques autres fleurs à pétales blancs comme la fleur d'oranger, la tubercule, le narcisse. Les fleurs sont déposées sur une couche de graisse pendant un certain temps. Puis cette graisse est diluée dans de l'alcool. Aujourd'hui, le jasmin est extrait à l'aide d'un solvant volatile. Le jasmin n'a jamais été distillé. Ses fleurs ne supportent pas la chaleur. Pendant l'Antiquité, les Égyptiens le mettaient à macérer dans une huile végétale pour se parfumer.
Le chèvrefeuille est aussi une plante ressource précieuse pour les humains. Son parfum entêtant n'a jamais pu être capté en parfumerie, car la fleur devient muette dès qu'on la récolte. Ses tiges ligneuses et souples conviennent tout à fait pour la vannerie sauvage. Partout en Europe, on en confectionne des paniers, des bâts pour le transport des lourdes charges sur le dos des animaux. Des guirlandes tressées de lianes repoussent les mauvais sorts dans les étables pour favoriser l'élaboration du beurre, la traite du lait et la santé des vaches. De la même façon, une maison construite à l'emplacement d'un chèvrefeuille sera robuste. Par son pouvoir de protection, il est toujours conseillé d'avoir un chèvrefeuille chez soi. On fabrique des cannes à serpents avec le bois de noisetier ou de châtaignier sur lequel le chèvrefeuille s'est enroulé. Certains artisans se spécialisent et en cultivent. Ces cannes sont réputées éloigner des serpents, des marcheurs et des pèlerins. En religion, le chèvrefeuille symbolise le serpent tentateur. Par extension, le chèvrefeuille devient l'icône des sorcières. En symbolique, il signifie l'attachement extrême, la fidélité. Emporté sur soi, attire l'amour et l'amitié. La légende dit que le chèvrefeuille s'est installé sur la tombe d'Héloïse et Abélard, les tiges enlacées symbolisant l'étreinte amoureuse. Dans son poème « Le lait du chèvrefeuille », Marie de France, au XIIe siècle, associe le chèvrefeuille au coudrier pour illustrer l'attachement entre Tristan et Iseut. En voici un extrait. Le jour que le roi s'en alla, Tristan est revenu au bois, sur le chemin où il savait que le cortège devait passer. Il trancha un coudrier par le milieu et le tailla en carré. Quand il eut paré le bâton de son couteau, il écrivit son nom. De tous deux, il en était comme du chèvrefeuille, qui au coudrier se prenait. Quand il s'est enlacé et pris, et tout autour du tronc s'est mis, ensemble, ils peuvent bien durer. Mais si l'on veut les séparer, le coudrier meurt rapidement et le chèvrefeuille également. Bel ami, ainsi en est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Allez, pour poursuivre dans l'illustration de cette symbolique forte, je vous invite à finir en littérature avec un extrait du conte « Les amours du Rouvre et de la Lonicère » écrit par Élie Reclus dans son recueil « Physionomie végétale » avec les voix de Christelle, Claudie et Jimmy, et accompagné de d'un extrait musical intitulé justement « Chèvrefeuille » et joué par Émilie Vaquen. Voilà, eh bien c'est parti.
Dans la forêt de Meudon, poussait un jeune chêne, droit et fier, vigoureux.
Moi aussi,
pensait-il,
je serai un grand chêne. Avec mes puissantes racines, j'atteindrai le roc, je prendrai possession de la terre. Je monterai haut dans l'air, bien haut. Je lutterai contre le vent et les tempêtes et la tempête. Je braverai la foudre, je serai roi de la forêt, roi de moi-même, de mes centaines de branches, de mes milliers de branchies, de mes millions de feuilles. Je produirai des millions de fleurs. Rien qu'avec ce que je produirai de glands, je perpétuerai la noble race des chênes, toute une famille de héros, la gloire des forêts.
Il travaillait par en bas, il travaillait par en haut. Il poussait, le bon et beau petit rouvre. À côté de lui, naquit une lonicère, élégante chèvrefeuille des haies. Elle aussi voulait grandir. Elle voulait devenir fraîche et jolie, parfumée, la joie des yeux, la volupté de l'autorat.
« Je veux vivre, » pensait-elle, « une vie de bonheur et d'amour. Je donnerai l'amour et je prendrai le bonheur en échange.
Sa tigelle qui, au moindre vent, allait de ci, allait de là, cherchant aventure, rencontra bientôt le jeune chêne, son voisin.
Beau chêne, bon chêne, tu me plais et je te veux du bien. Je suis faible, laisse-moi enrouler mes rameaux autour de son tronc si ferme, si droit à l'écorce grise, si propre, si jeune. À ta mâle vigueur, le poids de mon corps mince et souple ne pèsera guère. Tu nous protégeras tous, un jour contre les vents froids et mauvais. Mais moi, tu me protégeras de plus près. Je suis faible encore, mais je serai belle, crois-moi. Et quand, au milieu de tes rameaux austères, de ton feuillage un peu sombre, le passant verra éclater mes longues grappes blanches et roses, il demandera émerveillé, quel est ce chêne tout fleuri de fleurs embaumées ? De grâce, j'ornerai ta force et la douceur sourira dans ta noble puissance. Jeune chêne, mon bon rouvre, sois mon amant, je serai ta maîtresse. Laisse-moi entortiller ma vie autour de la tienne.
Volontiers,
répondit le beau chêne. Ils grandirent ensemble, l'onicèrent toutefois beaucoup plus vite. Bientôt, ils furent de même taille. Bientôt même, l'onicère, maigre et svelte, eut dépassé le chêne, si elle ne se fût pas repliée en nombreux détours, en courbes gracieuses. Ses longs rameaux, pliants, couraient autour du bois solide et vigoureux, comme les fils électriques autour du fer qui s'aimante, et retombaient ensuite en courbes et arceaux. L'onicère avait dit vrai. De fleurs, elle entremêlait le sombre feuillage. Attirée par le suave parfum du miel embaumé, accoururent les foules de papillons au vol palpitant, les abeilles affairées, les insectes bourdonnants de la forêt. Jamais le chêne n'avait rêvé pareille fête. Jusque-là, il n'avait connu que la force, la lutte, le combat. Il n'avait admiré que l'immobile résistance du roc stupide, la fureur de l'ouragan et la terrible majesté des éclairs fulminants. Il avait ignoré ce que pouvait être la grâce et la souriante douceur, pour les couleurs et les odeurs, pour le vent tiède qui fait gazouiller les feuilles et les nids, pour tout ce qui est féminin et doux, en un mot, pour tout ce que nous appelons amour. Il avait eu le mépris triomphant de qui l'ignore. Et tandis que le rossignol charmait de ses doux accords le silence des nuits,
« Que nous sommes heureux !»
pensait-il.
« Vraiment, nous étions faits l'un pour l'autre !»
Et l'onicère était fier de son rouvre, et le rouvre se complaisait dans l'onicère qui l'enveloppait. Autour de lui se tordait l'onicère et étreignait de douces et puissantes caresses le tronc et les rameaux.
« Serre-toi plus près, serre-toi toujours plus près !»
s'écrie le rouvre.
Enchaîne-moi dans tes lacs d'amour.
Et l'heureuse l'onicère multipliait ses nœuds et l'embrassait de plus en plus étroitement. Cela dura quelques printemps, plusieurs étés, plusieurs hivers. Pour Quercus Robur, issu d'une race de centenaires, ce fut bien peu. Ce fut beaucoup pour la fille de Chèvrefeuille.
Cette émission est terminée. Avant de nous quitter, vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Moi, Christelle et Jimmy et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle plante.